Le journal Frédéric Mettezo. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous. Plan d'action ou plan de communication? Christophe Castaner et Jean-Michel Blanquer réunissent le comité stratégique contre les violences envers les enseignants. Le 12e plan en 20 ans est annoncé. La sécheresse, jamais vue en France depuis 1959. Il n'y a pas que les agriculteurs qui craquent, des bâtiments aussi. En Franche-Comté, des maisons se fissurent faute d'humidité. Reportage. La tournée des capitales européennes d'Emmanuel Macron continue. Aujourd'hui, Prague et Bratislava. Le président va tenter d'assouplir les positions de ces pays proches de la ligne de Viktor Orban. Angela Merkel jette toutes ses forces dans une élection régionale en Hesse. 4 meetings en 4 jours. Sa coalition pourrait être fragilisée en cas de mauvais résultats. L'invité du grand entretien à 8h20 à Lille, une conscience française qui nous raconte une histoire européenne.
Robert Badinter, il publie Idis aux éditions Fayard et il sera l'invité du grand entretien. Le standard est ouvert. Posez vos questions à Robert Badinter dès maintenant au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
Le vilain match de l'OM hier soir, battu 3-1 à domicile par Kiev en Ligue Europa. Les jeux vidéo pour tous à la Paris Games Week. Des handicapés moteurs prennent la manette.
France Inter.
8 jours après cette agression filmée d'une professeure dans un lycée de Créteil avec une arme sur la tempe qui s'est révélée factice, le gouvernement réunit un comité stratégique. À l'ordre du jour de cette réunion qui s'ouvre à l'instant, les violences contre les enseignants. Autour de la table, les ministres de l'Éducation et de l'Intérieur, leurs directeurs d'administration, des recteurs, des préfets, des représentants des collectivités locales. Mais un risque, Alexis Morel, celui d'un plan limité, une opération de communication, une de plus.
La lutte contre les violences scolaires, c'est 12 plans en 20 ans. D'abord pour développer un arsenal répressif jusqu'à la fin des années 2000 avec l'idée de sanctuariser l'école. Depuis, les objectifs sont plus ciblés contre le harcèlement par exemple. Aujourd'hui, les chefs d'établissement peuvent déjà compter sur des équipes mobiles de sécurité dans chaque académie, des équipes que le ministre veut renforcer, mais aussi sur des correspondants dédiés chez les gendarmes et policiers. Depuis 2011, les textes imposent aussi théoriquement une procédure disciplinaire automatique en cas de violence verbale contre un enseignant et un conseil de discipline lors de violences physiques. Pour Joël Lamoise, secrétaire national du SNPDEN et proviseur en Lorraine, les outils sont donc déjà nombreux et suffisants. Le problème est ailleurs.
Apprendre à gérer ce type de situation n'est pas dans la formation initiale des personnels qui sont dans les établissements scolaires. Donc il faut bien qu'on nous forme sur des situations qui peuvent se produire. Avoir des réactions professionnelles. La réaction par rapport à une violence verbale, c'est pas de se laisser emporter, mais c'est de réagir de telle sorte de calmer des situations. C'est un métier qu'on méconnaît.
Formation d'autant plus nécessaire que 80% des incidents graves contre les enseignants ont lieu dans la salle de classe quand le prof est seul face à ses élèves.
Y aura-t-il de nouveaux EPR après celui de Flamanville? Oui, mais sous condition. Dans le Cotentin, ce chantier a pris beaucoup de retard. Alors, selon l'agence France Presse, le gouvernement décidera de la suite du programme EPR dont il faudra réduire les coûts. Un document de travail prévoit aussi de lancer un programme de recherche pour prolonger la vie des réacteurs déjà existants.
La France vit sous le régime de la sécheresse depuis des semaines.
Même s'il doit pleuvoir ce week-end, la situation est critique. La préfecture de l'Indre lance la procédure pour calamité agricole et en Meurthe Moselle et dans les Vosges, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la sécheresse de l'année dernière. En Franche-Comté, certaines maisons voient leurs murs se fissurer. L'air est trop sec. Reportage de Wassila Guitoun.
Sandrine, qui nous emmène dans son jardin, nous montre le mur de sa maison avec cette fissure de 4 cm de largeur.
Oui, c'est impressionnant. C'est la plus grosse fissure qui fait tout l'angle, qui prend de fenêtre à fenêtre et vous en avez encore là, là-bas, de l'autre fenêtre jusque là. Ça reprend là. On peut rentrer à l'intérieur si vous voulez.
Elle nous guide vers sa chambre où elle a placé une énorme poutre au milieu de la pièce.
Donc voilà ce qui est un été. Donc là, vous pouvez voir la faille. On voit que le mur s'est décroché du plafond. On a un peu peur que le plafond nous tombe dessus. On est dans une situation très précaire.
Et tout cela, c'est bien à cause de la sécheresse. C'est ce que nous dit Gilles Benet. Il est ingénieur dans le bâtiment à Belfort, expert pour la justice.
Il se trouve qu'il y a une nature de terrain qu'on appelle les argiles gonflants, qui sont des argiles très sensibles à l'eau. Et donc la terre s'est déshydratée. Et en se déshydratant, elle a perdu du volume. Et le fait de perdre du volume sous des fondations fait que dans certains cas, si la fondation n'est pas assez profonde ou pas assez rigide, on retrouve des fissures dans les maisons.
Et les dégâts causés peuvent coûter très cher.
C'est pas un coup de peinture, il faut bloquer les fondations pour que le phénomène ne se reproduise plus. C'est relativement coûteux, je dirais 20-30 000 euros facilement.
Les propriétaires concernés doivent se manifester auprès de leur mairie qui demandera alors à être reconnue en état de catastrophe naturelle.
Wassila Guitoun de France Bleu Belfort. La taxe carbone continuera d'augmenter, déclaration d'Edouard Philippe dans plusieurs journaux régionaux ce matin. Le Premier ministre explique dans cette interview que cela permettra de financer la transition écologique. À ce propos, petit coup de griffe à Nicolas Hulot et à Gérard Collomb. C'est quand la route est difficile que l'on reconnaît ceux qui ont du cran. Fermez les guillemets. Piquets de blocage et pneus enflammés depuis l'aube devant l'aciérie Valourec de Saint-Saulve près de Valenciennes. À l'appel de la CGT, des salariés bloquent complètement l'usine Ascoval. Il n'est pas sûr que le site soit repris et 281 emplois sont en jeu. Une nouvelle réunion est prévue aujourd'hui au ministère de l'Économie. Tristesse et colère chez les facteurs du Périgord. Une factrice de 44 ans, mère de famille, s'est pendue avant-hier chez elle à Saint-Cybranais en Dordogne. Hier, ses collègues ont exercé leur droit de retrait. Ils n'ont pas distribué le courrier. Ils ont manifesté devant les centres de tri de Sarlat et de Siorac, car ils estiment que les restructurations en cours à la Poste mettent leur santé en danger. Emmanuel Claverie a rencontré des facteurs à Siorac.
Perdre une vie comme ça, j'arrive pas à comprendre.
Comme ses autres collègues facteurs du Sarladais rassemblés devant le centre de tri de Siorac en Périgord, Ingrid a du mal à accepter le geste de Paula, 44 ans. Dépêchée sur place, des cadres de la Poste ont tenté d'expliquer aux salariés que son suicide n'était peut-être pas lié à son travail. Daniel, facteur depuis plus de 37 ans, a dans son téléphone la preuve du contraire.
Dans les SMS qu'elle a envoyés aux collègues, elle parle du harcèlement de la Poste et elle dit que la Poste allait finir par la tuer. Et ben voilà, je pense que c'est directement lié. Elle a mis fin à sa vie.
Pour les facteurs du Sarladais, la réorganisation de la distribution du courrier, en vigueur depuis le 15 octobre, y est certainement pour quelque chose. Evelyne est factrice depuis 30 ans.
Tout a été changé, on n'y arrive pas, on met beaucoup plus de temps à faire notre travail. Et il faut rentrer à des temps qui sont impossibles, avec des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, bien entendu. Donc on se met une pression d'en faire. Après, il arrive un moment où on n'y arrive plus et on arrive à des choses où, voilà, qui nous poussent vers ces choses-là.
La Poste n'a pas souhaité s'exprimer. Elle indique qu'une enquête de gendarmerie est en cours pour déterminer les causes exactes du suicide. En attendant, l'entreprise appelle à la prudence et à ne pas tirer de conclusions hâtives.
Emmanuel Claverie de France Bleu Périgord, hier soir, débat sur le budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale. La majorité exonère 350 000 foyers de retraités modestes de hausse de la CSG. Pas question, en revanche, d'une hausse progressive en fonction des revenus, comme le demandaient 31 députés marcheurs.
Et puis Frédéric, Emmanuel Macron est en Europe de l'Est aujourd'hui.
À Bratislava, en Slovaquie, puis à Prague, en République tchèque. En un an et demi, le président de la République a visité les deux tiers des pays membres de l'Union européenne. Et il ne compte pas s'arrêter là, mais à 7 mois des élections européennes, l'Élysée assure qu'il n'est pas en campagne. Simon Le Baron.
Aucun mélange des genres. L'entourage du président le jure, il n'est pas en campagne ni à la recherche d'alliances électorales. Il vient ici montrer la considération de la France à des partenaires qu'elle a trop longtemps négligés et célébrer le 100e anniversaire de la création de la Tchécoslovaquie que l'État français a été le premier à reconnaître en 1918. Impossible pourtant d'ignorer les grands enjeux européens de 2018. La question de l'accueil des migrants notamment devrait bien être abordée. Tchèques et Slovaques sont opposés aux quotas de relocalisation obligatoires, mais dans le groupe dit de Visegrad qu'ils forment avec la Hongrie et la Pologne, ils sont considérés par la France comme les constructifs, moins controversés certes que le Hongrois Viktor Orban, mais tout de même proche allié du chef de file du camp nationaliste en Europe, qu'Emmanuel Macron, leader autoproclamé des progressistes, a désigné comme son adversaire numéro un. À Bratislava, Simon Le Baron, France Inter.
Toujours aucune revendication après l'envoi d'une dizaine de colis piégés à des personnalités opposées à la politique de Donald Trump, les couples Clinton et Obama, l'homme d'affaires George Soros et désormais Robert De Niro ou l'ancien président, vice-président démocrate Joe Biden. Des enquêteurs du FBI ont perquisitionné un centre de tri postal près de Miami, en Floride, où auraient été postés les colis. Après un discours d'unité nationale avant-hier, Donald Trump s'en est pris de nouveau à la presse. Je le cite, « Les médias traditionnels doivent changer d'attitude ». Élection en Allemagne ce dimanche dans le Land de Hesse, celui de Francfort. La CDU d'Angela Merkel espère conserver la majorité, mais les sondages sont pessimistes. Deux semaines après le recul de la CSU en Bavière, la chancelière se démultiplie. 4 meetings en 4 jours, car sa coalition berlinoise pourrait être fragilisée. Le correspondant de France Inter en Allemagne, Ludovic Piétenu, a suivi la chancelière hier soir à Fulda.
Angela Merkel arrive sur la musique de Rocky IV au titre évocateur Survivor, comme si la survie de son parti en dépendait, sa propre survie aussi comme présidente de la CDU et comme chancelière, Merkel mobilise ses troupes. Le danger ici d'un gouvernement rouge-rouge-vert n'est pas complètement écarté, dit-elle, et ce ne serait pas un conte de fées. Pour l'éviter dimanche, chaque voix compte. Et l'argument principal ressassé pendant ces 4 jours par la chancelière, pourquoi essayer un autre parti que la CDU ? Il faut préférer la stabilité. Le candidat sortant, Volker Bouffier, un fidèle de Merkel, ne cache pas les conséquences nationales de cette élection régionale. Bien sûr, c'est important pour le gouvernement fédéral, pour la grande coalition à Berlin, c'est important. Et j'espère que le résultat de nos élections lui apportera de la stabilité. C'est un bon argument de campagne qui nous va bien. Pas sûr que ce discours, le même utilisé en Bavière il y a 15 jours, fonctionne à plein. Dimanche soir, en cas de fort recul de la CDU et des sociodémocrates du SPD, certains n'hésiteront pas à dire un peu plus fort que cette coalition a suffisamment vécu. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Le voilier Tara de retour au port demain, Frédéric.
Pendant 2 ans et demi, la goélette a étudié les coraux du Pacifique. Les études des plongeurs et les analyses des échantillons prouvent que le blanchissement des coraux n'est pas généralisé, mais que le réchauffement climatique et la pollution sont très nocifs pour ces organismes. Explication de Sophie Becherel.
Tara rentre au port avec un trésor dans ses cales, 35 000 échantillons de corail et de plancton. Pour le corail, le phénomène de blanchissement est maintenant attesté. Il est provoqué par le réchauffement de l'océan. Parfois saisonnier, parfois durable, il touche de façon inégale les récifs sans que l'on sache pourquoi. C'est ce que cherche à comprendre la centaine de scientifiques impliqués dans l'expédition. Des carottages ont été faits afin de déterminer par le nombre de cernes de croissance, un peu comme les arbres, la vitesse de pousse, l'accélération ou le ralentissement. Autour des récifs, l'eau de mer et le plancton prélevé seront analysés pour essayer de comprendre ce qui se joue sous les mers. Le corail est un animal qui vit en symbiose avec une algue, elle le nourrit. Est-ce l'algue qui quitte le corail ou le corail qui expulse l'algue quand la température monte? Question encore non résolue, comme l'est le rôle des bactéries et des poissons présents sur les récifs. Tara, voilier de 36 mètres, a inventé une autre océanographie depuis 10 ans avec des équipements scientifiques miniaturisés et adaptés aux voyages long cours comme on les pratiquait du temps de Darwin. Marins et scientifiques travaillent ensemble sur de longues périodes. C'est ce qui permet de prendre le pouls de l'océan à l'échelle mondiale, un monde encore mal connu. Sur Tara, Sophie Becherel, France Inter.
Le plus grand salon de jeux vidéo en France ouvre ses portes aujourd'hui.
Oui, ça s'appelle la Paris Games Week. C'est Porte de Versailles à Paris, donc jusqu'à mardi soir prochain. Outre les nouveaux jeux et les nouveaux accessoires, cette 9e édition s'intéresse à l'accessibilité aux jeux vidéo. Par exemple, pour les aveugles ou pour des handicapés moteurs. Hélène Chevalier a rencontré Koucha Kazemzadeh. C'est un myopathe passionné de jeux vidéo.
Les yeux rivés sur son écran d'ordinateur, les deux mains autour d'une souris, Koucha tente d'échapper à une horde d'ennemis dans le jeu World of Warcraft.
Si on sort pas, on n'a pas forcément de travail, on rencontre pas forcément des gens et on reste chez nous et qu'on peut même pas jouer, ça devient très compliqué.
Avec l'avancement de la maladie, ce trentenaire a perdu l'usage d'une grande partie de son corps, mais grâce aux nombreuses options d'accessibilité de ce jeu de rôle et un peu de bidouille, Koucha peut continuer à jouer. Certaines des commandes sont par exemple situées au niveau de sa bouche.
Par exemple, j'ai un bouton, bon, on ne peut pas le voir, mais...
C'est avec votre voilà. Lèvre inférieure.
Lorsque je vais appuyer, mon personnage avance et c'est les mouvements de la souris qui vont contrôler le personnage.
Koucha est le cofondateur de l'association CapGame qui œuvre depuis 5 ans pour l'accessibilité des jeux vidéo.
Malheureusement, des jeux comme ça, ça se fait de plus en plus rare. Des jeux deviennent plus complexes. Il y a beaucoup de jeux où vous devez sans cesse appuyer comme des malades sur les touches. Ce genre de choses, certaines personnes ne peuvent pas.
Pourtant, certaines options d'accessibilité pourraient être facilement ajoutées à condition qu'elles soient prises en compte dès le début de la fabrication du jeu.
J'ai l'impression que c'est du détail, mais comme je dis bien souvent, les détails font l'accessibilité, mais l'accessibilité n'est pas un détail.
Koucha se veut optimiste, l'industrie vidéoludique semble depuis quelques mois avoir pris conscience de cet enjeu.
Reportage d'Hélène Chevalier. La mauvaise soirée des clubs français engagés hier soir en Ligue Europa de football. Rennes a perdu sur le fil 2-1 contre le Dynamo de Kiev en Bretagne. La qualification pour le prochain tour s'éloigne. Ce sera dur aussi pour Marseille, battu à domicile 3-1 par la Lazio de Rome. Tony Cellier, les Marseillais n'ont pas été dignes de leur performance de l'an passé quand ils avaient disputé la finale.
Un but après seulement 10 minutes de jeu et derrière une maîtrise. Sans jamais vraiment trembler, les Italiens n'ont fait qu'une bouchée des coéquipiers d'Adil Rami.
On s'est fait bouffer surtout au niveau de l'impact athlétique.
Un dépeçage en règle. Et Marseille a bien aidé la Lazio à ce petit jeu. Rudy Garcia n'a tout simplement jamais reconnu ses joueurs. Un OM, version Canada Dry.
On a été loin de ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire techniquement dans les relations, dans les courses, dans le combat aussi.
Alors faites les comptes, un nul, deux défaites. L'OM de Dimitri Payet n'est plus que l'ombre du finaliste de la saison dernière.
On savait qu'un autre résultat qu'une victoire ce soir ici nous mettrait dans l'embarras pour la qualification. C'est sûr qu'on perd plus qu'un match ce soir.
Autrement dit, pour la qualification, il faudrait maintenant un miracle. Et l'équation est très simple pour Kevin Strootman.
Non, ça remonte au défi, c'est la date.
Ça, pour être difficile, ça ne pouvait pas être pire. Prochain rendez-vous, justement, en Italie et à Rome. Pour survivre, l'OM ferait mieux cette fois de ne pas envoyer de gladiateurs, de pacotilles. Marseille, Tony Cellier, France Bleu Provence pour France Inter.
Oui, mais avant le match retour à Rome, il y aura le championnat de Ligue 1 dimanche soir. El Clasico, l'OM reçoit le PSG au Vélodrome.
Merci Frédéric.